بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاعه الاسلام لثمان دانيه ونبي كومونسي عما يتساءلون عن النبأ العظيم. On avait expliqué que le sujet de divergence chez les polythéistes, chez les mouchriquins de Quraysh, était à propos du Coran, de la parole d'Allah, à propos de ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu comme révélation et comme enseignement de la part d'Allah azza wa jal, et plus précisément à propos de al-mahshar, de la résurrection, du qiyama, du retour auprès d'Allah azza wa jal. Et cette non-acceptation de al-ba'th wa al-nushur, de la résurrection, du retour auprès d'Allah, du retour à une autre vie, c'était déjà un point cité dans beaucoup de versets de Amma yatasa'alun qui correspondent donc à la période Makki. Et nous voyons que les polythéistes étaient fermes sur ce point. Autant ils acceptaient, ils reconnaissaient que le Créateur unique c'est Allah, mais concernant la résurrection, ils n'arrivaient pas à concevoir qu'à partir d'ossements, à partir de restes d'un corps, après des années, des siècles même parfois, ou des milliers d'années, ce corps peut retrouver vie et donc redevenir hay, redevenir un être vivant et donc être jugé. Et la seule chose qui les bloquait, parce que par rapport à la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa prophétie, très souvent, ce qui les empêchait de voir la vérité, c'était la fierté et l'orgueil. Maintenant, il y avait l'autre côté, c'était cette obsession de vouloir comprendre les choses par le biais de leur entendement, par le biais de la logique. Et donc pour eux, la résurrection était quelque chose d'illogique. Donc, à travers la réaction, cette mauvaise réaction des mouchriquins, des polythéistes de Quraysh, qu'est-ce que nous devons déduire comme leçon? Nous devons comprendre le danger qu'il y a à vouloir essayer de tout comprendre par le biais de la logique humaine. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas méditer sur la sagesse des ordres, des interdits, reconnaître la grandeur d'Allah, de les créatures. Non, ça, mashallah, ce sont des choses tout à fait correctes. Même les ibadas, si une personne demande au prophète demande pourquoi est-ce qu'on accomplit 5 salats, pourquoi est-ce qu'il y a le rukou', il y a le sujoud, on peut essayer de répondre, il n'y a pas de mal. C'est pas des questions qui mettent la foi en danger. Parce que de cette question, qu'est-ce qui va naître? Encore plus de conviction, encore plus d'attachement. Parce que je suis de cet avis qu'il est important de comprendre ce que nous pratiquons. Comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal a permis à l'homme de comprendre. Maintenant, il y a une sagesse à travers les actes d'adoration qui n'est connue que de notre Seigneur, que d'Allah Azza wa Jal. Et le danger serait qu'à partir du moment où je n'arrive pas à comprendre là, entre guillemets, la logique qu'il y a dans tel acte d'adoration, dans tel ordre, dans tel interdit, ben si je ne comprends pas, dans ce cas je ne crois pas. Ça, c'est exactement ça, la réaction des polythéistes, des mouchriquins de Quraysh, et c'est une des choses qui a causé leur perte, leur destruction. Donc ça, on doit faire extrêmement attention. Nous sommes à une époque où il y a beaucoup de philosophes, énormément d'islamologues, énormément de personnes qui aiment discuter, débattre, parler de quelque chose qu'ils ne pratiquent même pas. Ils vont philosopher sur la prière, ils vont philosopher sur le contenu miraculeux du Coran, ils ne le lisent même pas, ils n'ont aucun attachement. Yani, il y a des gens qui aiment discuter, Allah musta'an. Et le grand danger, ce serait d'arriver à une pensée philosophique, j'aime pas le terme, où on doit absolument comprendre pour pratiquer. Et si je ne comprends pas, je ne pratique pas, ce serait là une grave erreur. Parce que notre dîn est basé avant tout sur al-iman bil ghaib. Première, ça on le répétera tout le temps. Première qualité des croyants cités dans Al-Baqarah, Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ensuite, c'est ceux qui croient en l'invisible. Ensuite, wa yaqimuna as-salah. Ensuite, on parle de la salah. Ensuite, wa mimma razaqnahum yunfiqun. On parle de l'aumône, de ce qu'on donne. Mais la première qualité du mu'min, au début du Coran, c'est Alladhina yu'minuna bil ghaib, parce que croire en l'invisible, ikhwani fillah, c'est la base. Développer le iman, c'est la base. Les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in ont eu droit à une éducation spirituelle très poussée, intensive pendant les 13 années à Mecca, où le prophète alayhi salatu wa salam a formé leur iman, a forgé cette foi, a rendu cette foi solide. Une foi qui va croire à tout ce qui est révélé par Allah et qui va mettre en application le moindre wajibat, le moindre ordre d'Allah Azza wa Jal et la moindre sunnah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un iman qui va leur permettre de rester éloigné de tout ce qu'Allah rend du haram et de s'éloigner, d'abandonner tout ce qui est mashkouk, tout ce qui est douteux, pour arriver, wallahi l'azim, à cet état d'âme, cet état imani, spirituel, où on est capable de prendre tout ce qu'Allah nous demande et de nous éloigner de tout ce qu'Allah a rendu haram, même ce qui est douteux, on s'en éloigne par amour et par crainte d'Allah, sans chercher la petite bête, sans dire oui mais pourquoi ça c'est pas bon, peut-être qu'à une époque c'était haram, maintenant c'est... Non, Allah l'a décrété interdit, illicite, ikhwani fillah, c'est jusqu'au qiyama. Ou alors essayer de cautionner nos manquements par rapport à une situation ambiante, par rapport au contexte dans lequel nous vivons. Et ça, c'est un piège où beaucoup de croyants, Wallahu musta'an, sombrent par waswasa de shaitan. Et ça, nous voyons souvent dans les relations hommes-femmes, dans les wajibas, dans les devoirs du mari, dans les obligations du mari par rapport à son épouse. Sur le plan foi, comportement et façon de se présenter. Où nous voyons beaucoup de personnes qui sont, mashallah, à fond dans la religion, dans les milieux associatifs ou autre chose, ils sont prêts à donner de leur temps, à donner de leur vie pour la religion. Je ne porte aucune critique, Allah est le seul juge. Vous les voyez dans une réception, un endroit avec leur famille. Vous voyez femmes et grandes filles habillées, Allah musta'an, d'une façon qui ne correspond pas du tout à l'enseignement de notre dîn. Les cheveux qui ne sont pas couverts, une tenue qui n'est pas adaptée, et nous ne portons aucun jugement. Personne n'a le droit de juger quiconque. Mais c'est un constat. Ça, c'est un piège de Shaitan qui te fait croire que, écoute, tu fais plein de choses pour la communauté, pour la religion. Grâce à toi, il y a plein de choses qui se mettent en place. Khair, beaucoup de khair, beaucoup de récompenses pour ces efforts, ces sacrifices que ces personnes font, que peut-être nous on ne fait pas, on n'atteint pas leur cheville. Mais attention, attention, ce dîn se pratique de façon kulli, en entier. Ne pas cautionner nos manquements en se disant, mais de toute façon nous vivons à une époque, ou alors on est dans une société occidentale, ou alors au nom de la laïcité, au nom de l'ouverture d'esprit, tout ça, ikhwani fillah. Ceux qui mettent en avant ce genre d'excuses, j'appelle ça des alibis plutôt, juste une seconde pensée, est-ce qu'on est capable d'avancer les mêmes arguments devant Mahkama, devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal? Si on se dit que je pense que devant Allah Rabbul Izzah, je serai capable de dire, Allah, j'ai éduqué mes filles, et ma femme, je l'ai laissée fréquenter, faire la bise à tous les messieurs qu'elle rencontrait, et ainsi de suite, comme ça, s'habiller d'une façon non islamique, parce que on vit dans un pays ouvert, un pays occidental, on n'était pas à Mecca, à Madina, au nom d'eux. Si tu te sens capable de dire ça à Allah, le jour de Qiyam, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, lorsque le soleil sera au-dessus de notre tête, فَفَعَلْ. Ok. Que ton cœur soit rassuré, et fais-le. Mais si tu sens que c'est délicat, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire ou non, c'est compliqué. Et après, en conclusion, et mes chers frères, dans toutes les civilisations, dans tous les pays et à toutes les époques, lorsque l'homme sait pertinemment qu'il est en train de grignoter le haram, mais qu'il n'arrive pas à se faire une raison, il sait qu'il n'est pas dans le droit, il sait qu'il n'a pas raison, il sait qu'il est dans le tort, en finalité, il y aura une seule phrase qui va ressortir, oui, mais Allah il pardonne, un. Ou alors, Allah il connaît le cœur. Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, c'est dedans qui est important. Ça, c'est le classico. Le classico, c'est ça. Soit, Shaitan nous fait dire, Ils pensent, ils font de grands espoirs pensant que de toute façon Allah est clément. Certes, Allah est clément. Certes, Allah est miséricordieux. Certes, Allah est tawwab, rahim, ghafour, rahman, sattar, allam al-ghuyub, sans le moindre doute. À partir du moment où on reconnaît nos fautes et on revient vers lui. Walladhina idha fa'alu fahisha. C'est quoi les conditions pour le tawba? Quand on accomplit un péché, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. Qu'il y a une connexion qui se fait avec Allah et qu'on demande pardon pour ce qu'on a fait. Pas de se dire que sans continuer, pas grave, Allah est pardonnant. Non. Prise de conscience, condition shurut tawbatun nasuha, repentir sincère, prendre conscience que je suis dans le péché. Prendre conscience qu'Allah est au-dessus de moi et que là je suis à l'encontre de ses ordres, regretter, demander pardon. Et azm, avec fermeté, on se décide de ne plus recommencer. C'est comme ça qu'Allah parle. Oui, là, Allah est ghafour rahim, là, Allah va pardonner. Mais qu'une personne se laisse aller et gravit des échelons dans les péchés et laisse le péché installer dans sa vie, en se disant que soit Allah y pardonne, ou alors, pire, que c'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte, assurément, on a été piégé par Shaitan. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, chef en islam, je ne sais pas qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs, on est parti tellement loin là, on est, subhanallah, de parenthèse en parenthèse, on est arrivé jusqu'à là. Oui, c'est cette compréhension de la religion qui est basée sur la logique, ça il faut faire très attention. C'est là-dedans, c'est cette erreur que les Quraysh avaient fait, pour eux, il est illogique. Scientifiquement, on ne va pas utiliser le terme scientifique, il n'y avait pas de science vraiment à l'époque, mais dans le discours contemporain, on va dire que scientifiquement, telle chose n'est pas possible, n'est pas prouvée. Donc, si on attend les preuves scientifiques pour croire, c'est qu'on n'a pas iman bil ghaib. Et voyez, le revers. Et ce qui attend ces gens, ces politistes du Quraysh, le jour de Qiyama, ce sont les versets qu'on avait expliqués ensuite. Kalla saya'lamoun, thumma, kalla saya'lamoun. Ils le sauront, ils vont le savoir. Mais quand est-ce qu'ils vont le savoir? Quand ils ne voulaient pas croire au Qiyama. Ils ne voulaient pas croire que les gens seront ressuscités. Ils ne voulaient pas accepter qu'il y ait un paradis, qu'il y ait un enfer, qu'il y ait un retour, qu'il y ait un tribunal d'Allah. Ils n'ont pas cru jusqu'à la dernière minute de leur vie. Ils sont morts dans le kufr al-inad, dans cette mécréance. De toute façon, saya'lamoun. Thumma kalla saya'lamoun. Ils le seront. Et bien sûr qu'ils le seront. Mais quand? Le jour de Qiyama, lorsqu'ils vont voir. Et est-ce que cette vision de l'au-delà, de ces étapes, assurément lorsque les gens voient, ils vont y croire, tout le monde, est-ce que cette croyance-là sera profitable? Non, c'est fini. Parce que croire en Allah, croire en ses prophètes, croire en Odin d'une manière générale, c'est limité dans le temps. Tant qu'on est dans ce dunya, tant qu'on est encore vivant, tant qu'on n'a pas atteint la maladie les derniers instants avant la mort, on peut croire, on peut accepter l'islam, on peut demander pardon, on peut se décider de changer notre vie. Quand on est dans les derniers instants de le rarara, de l'agonie, c'est fini. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. Et dans un autre programme, le mardi, centre-ville, on avait vu un peu les conditions lorsque, à la fin des temps, non, ça c'est ce mardi-là, non, ce mardi-là, il y a un autre programme. Le mardi d'ensuite, lorsque il y aura Adab, si je ne me trompe pas, c'est ce signe, cette bête monstrueuse qui va sortir, surgir à la fin des temps, et il va distinguer les croyants des mécréants, dit à partir de ce moment, la foi n'aura plus d'intérêt. Personne ne peut plus devenir musulman. Personne ne peut plus demander pardon. Pareil pour un autre signe, ou alors je mélange deux, il faut que je revoie. Ça, ce qui est sûr, c'est concernant le soleil. Lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, et que les gens le verront, mais à partir de moment, il n'y aura plus de tawba. On ne demande plus pardon à Allah. Pourquoi? Parce que le signe est apparent. Les gens vont réaliser que c'était ce que les croyants, ce que le prophète s'en annonçait. Donc tout le monde sera prêt maintenant. Quoi. Mais à partir du moment où on a vu, à partir du moment qu'un des sens a pris conscience de l'invisible, ben, c'est trop tard. Il fallait y croire quand on ne voyait pas, on n'entendait pas, on ne pouvait pas toucher, mais que uniquement le cœur croyait avec conviction. Ça, c'est la qualité du croyant. Et donc, ces gens, le jour de Qiyama, saya'lamoun, thumma kalla, saya'lamoun, ils le sauront, mais ce sera bien sûr trop tard. Ensuite, on avait vu les versets 6 à à 8, 6, 7 et 8, où il y a ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah de la création. Et ça, mashallah, on a vu ça dans beaucoup de sourates. L'objectif, c'est de, on avait expliqué la dernière fois, c'est de ramener l'homme vers la réalité de la création. Et qu'en voyant, en contemplant la création d'Allah, il réalise que tout a été créé par Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, réaliser la puissance d'Allah Rabbul Izzah qui a créé montagne, ciel, mer, terre et toutes les espèces d'êtres vivants dans toute leur variété. C'est là la puissance de la création d'Allah Azza wa Jal, et remercier Allah pour les bienfaits qui nous concernent et les utiliser dans le droit chemin. Donc on avait parlé de la terre, de la constitution de la terre, on avait parlé des montagnes et on avait dit que ce sont là deux signes de la création d'Allah qui sont des bienfaits, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que pour nous c'est quelque chose de naturel. Mais à partir du moment où il y a un dérèglement dans la constitution de la terre, par exemple la terre qui se met à trembler, c'est là qu'on se rend compte que le plus grand bienfait, c'est de vivre sur une terre qui est stable, qu'il n'y ait pas de séisme, qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. Et pareil, on a vu pour les montagnes. Ensuite, on a vu le verset « Wa khalaqnakum azwaja » ou la traduction exacte « Wa khalaqnakum azwaja » et non, nous vous avons créé en couple. Et on avait insisté sur la sunnatullah, la sunnat d'Allah Azza wa Jal de la création, qui est que le renouvellement des espèces, que ce soit humaines ou animales, ne peut être assuré qu'à partir du moment où on a le sexe masculin et le sexe féminin. Ça c'est la nature, c'est la sunnat d'Allah. C'est comme ça qu'Allah a organisé la création. Et lorsque des personnes vont à l'encontre de cela, d'accord, comme nous le voyons, nous le constatons à notre époque, c'est quelque chose, c'est un péché, c'est un kabira, bien sûr, un des péchés majeurs. Et au-delà de la notion de péché, c'est, on va dire, c'est une orientation sexuelle qui va à l'encontre même de la nature humaine et de la nature animale, qui va à l'encontre même des règles de la vie. Parce que si les mâles vivent ensemble et les femelles ensemble, comment est-ce qu'il y aura renouvellement de génération. Donc on s'était arrêté à là la dernière fois. Et on avait juste abordé légèrement wa ja'alna nawmakum subatan wa avancé inchallah wa ja'alna a'udhu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. Donc le premier verset d'aujourd'hui, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ, le verset 9, est désigné votre sommeil pour votre repos. Quels sont les deux mots essentiels de ce verset? Sommeil et repos. Il y a une relation directe entre le sommeil et le repos. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne nous apprend rien de nouveau. Quand je dors, je me repose. Y a-t-il besoin d'un verset pour ça? Bien sûr. Parce que c'est là un rappel. Allah Rabbul Izza nous a créé de cette façon. Et c'est là un ni'ma. C'est là un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'une personne, subhanallah, a pris une journée difficile, physiquement ou moralement. De nos jours, les journées sont plus dures moralement que physiquement. Ou psychologiquement, on en a plein la tête. Le coco, il est plein, comme il dit. D'accord? Subhanallah, il y a des gens qui se disent que je vais boire un tel médicament, un Lexomil, un Stilnox, je connais tous les noms, et ainsi de suite. Je ne vois pas, Allah protège, mais je connais des gens qui boivent, qui se droguent, ils vont prendre telle chose pour relâcher, décompresser, et ils ont espoir qu'avec ces médicaments ça va aller. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça ne marche pas. J'ai déjà vu des gens prendre ce genre de médicaments et ça fait l'effet inverse, ça les excite plus encore. Donc double magage, comme il dit, double prise de tête, d'accord? Alors que subhanallah, notre Seigneur, de sa clémence, de sa bonté, nous a permis d'avoir un corps qui trouve son repos et un... C'est quoi le terme de la dernière fois? Pas une mise à jour? Un formatage. Je m'y ferai jamais. Un formatage. Mais quand on dit formatage, c'est sans pour autant effacer. Un repos remis à niveau de nos pensées. C'est comme si que après une journée, vous avez déjà vu des meubles chinois? Où il y a 50 des petits tiroirs là. Les films kung-fu, longtemps il y avait là. C'est comme si vous refermez tout. Après une nuit, tout est remis dans chaque tiroir. Et chaque tiroir, il se referme. Et le matin, on réfléchit à tête posée. Ça, c'est un des grands bienfaits du sommeil sur le plan psychologique, également sur le plan physique. Vous savez, pour les grands sportifs, disent que le sommeil est important. Et quand on dort, je ne suis pas trop fort dans tout ça, pas très sportif non plus, mais quand on dort, apparemment, pour les muscles, par rapport au magnésium et ainsi de suite, c'est très important. Quand une personne ne dort pas suffisamment, un des symptômes, c'est les crampes. Quand vous voyez les trucs de médecine et tout, quand on a des crampes, docteur, on a des crampes et tout, est-ce que vous dormez bien? Je dis, ouais, bon, ben, pas suffisamment. Je dis, ben, le manque de sommeil occasionne des crampes musculaires et une fatigue musculaire intense. D'accord? C'est pour ça que les sportifs, je ne sais pas s'il y a de quoi être fier d'être sportif, mais les grands sportifs qui donnent leur vie à courir, hein, derrière un ballon ou frère, s'ils aiment, et ces personnes-là, ils tiennent à leur 7 heures ou 8 heures de sommeil par jour parce que physiquement, les muscles ne tiennent pas, ils ne seront pas suffisamment oxygénés, ainsi de suite, s'il n'y a pas ce sommeil. Regardez également les personnes qui sont atteintes d'apnée de sommeil. Vous savez, c'est quoi l'apnée de sommeil? C'est quand on dort, parfois on a du mal à respirer. Et je connais deux cas. Un jeune, et bon, une personne âgée, on va dire, ça c'est à peu près, ça arrive, un jeune, plus jeune que moi, lui dit que tous les matins, il se lève, même après 7 heures ou 8 heures de sommeil, voilà, c'est moi qui rajoute, hein, après une longue nuit de sommeil, il dit qu'il se réveille le matin, il est fatigué, comme si il a très peu dormi. Il a été voir un médecin, et le médecin dit qu'il est possible que cette fatigue, après avoir éliminé toutes les pistes avec l'analyse de sang, peut-être que vous faites des apnées de sommeil. Il a fait le test et tout, il dit que incroyable, votre niveau d'apnée de sommeil est extrêmement élevé. Il dit, et donc, dans votre sommeil, vous arrivez, enfin je ne suis pas médecin, mais apparemment ce qu'il m'a expliqué, vous passez dans des phases où vous manquez d'oxygène et que vous risquez de suffoquer, et il dit qu'il avale sa langue. Il avale, et c'est dangereux d'avaler sa langue. Les gestes de secours, première chose, c'est, je ne sais pas comment ils font, mais fais en sorte qu'il n'avale pas sa langue. Comment, je ne sais pas. Il dit que donc, et le cerveau, quand il voit que ce muscle, la langue c'est un grand muscle, hein, il est en train de revenir en arrière, je vous dis que tout ça, ça vous fait comprendre la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal et le ni'ma. Et quand on l'a pu, on se rend compte que subhanallah, c'était ça le plus grand bienfait. Il dit que comme la langue commence à retomber un peu en arrière, le cerveau provoque une réaction de réflexe un petit peu pour que les muscles se tendent, pour que cela ne se produise pas. Je veux dire que donc comme ça se produit au moins 30% de sa nuit, ben, de la nuit, le cerveau est en éveil permanent. Ce qui fait que quand il se réveille le matin, il est fatigué. Alors qu'un sommeil normal, un sommeil qui est synonyme de repos, c'est-à-dire pour quelqu'un de normal comme Inch'Allah et Inch'Allah comme vous et moi, ben ce sommeil vous permet de récupérer physiquement et quand on dit psychologiquement, ça met de l'ordre dans votre tête, quel que soit le niveau de stress, quand on se réveille le matin, on est frais, on est capable de reprendre une journée. Imaginez qu'on redémarrait à 6 heures du matin avec les mêmes angoisses que la veille, on n'avance pas. On n'avance pas, on serait hyper stressé à un moment donné, mais il n'y aurait plus personne pour travailler dans les bureaux ou pour faire quoi que ce soit parce que on vivrait de ce stress. Donc, deux dysfonctionnements pour qu'on comprenne le ni'ama. Et n'attendons pas de paix des ni'ama pour comprendre que c'est un bienfait. Donc, remercions Allah Azza wa Jal. Comment? En lisant le dua avant de dormir, en lisant le dua au réveil, alhamdulillah, il a dit ahyana. On remercie Alhamd. C'est les remerciements, les éloges envers Allah qui nous redonne la vie. Alhamdulillah, ahyana, ba'dama, matana, ulihi, nushur. Ça fait partie des formules pour remercier Allah Azza wa Jal. Donc, les deux dysfonctionnements, c'est ceux qui ont des apnées de sommeil et ceux qui n'arrivent pas à dormir, ceux qui sont insomniaques. Ça, c'est terrible, ça. Les gens qui ne peuvent pas dormir, il faut qu'ils prennent des doses ajib, massives de médicaments pour essayer de dormir un peu. Mais c'est une torture, ça, de ne pas pouvoir dormir, qu'Allah nous protège. Alors, donc, quand nous jouissons de ces bienfaits, nous reconnaissons que c'est là un ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal. Et voyez, où la science est arrivée à notre époque en termes de progrès dans les machines et ainsi de suite. Regardez la voiture ou l'appareil ou je ne sais pas moi, n'importe quel truc électrique, électronique le plus perfectionné au monde. Mais est-ce que quand on éteint, est-ce qu'il se recharge tout seul? Non. Vous avez votre portable, votre iPhone 6, d'accord? Quand il est déchargé, c'est pas que je l'éteins, une bonne nuit de sommeil, demain il sera chargé. Non. La voiture, il se recharge pas non plus quand on laisse éteindre. Bilaks. n'importe quelle chose qui a été créée par l'homme ne se régénère pas tout seul. Mais la création d'Allah se régénère tout seul. Et la façon que l'homme dort, c'est ajib. La façon que les oiseaux dorment, c'est ajib, et ainsi de suite. J'ai regardé un reportage dernièrement, magnifique reportage animalier, on parlait des grues. Vous savez c'est quoi des grues? C'est un genre d'oiseau, d'accord? Ils montrent comment ils dorment. On se dit que Allah Akbar, comment ils savent qu'il faut faire ça? C'est Allah qui les a créés de cette façon. Les grues, c'est un peu comme des pélicans avec des grandes pattes. Et ils dorment toujours les deux, ça s'appelle des pattes, oui, les deux pattes immergées à moitié dans l'eau. Et pourquoi dans l'eau? Il dit que le fait que ces oiseaux dorment à moitié immergés dans l'eau, ça les protège de l'approche des renards le soir. Autrement, les renards viennent, ils les mangent. Donc, comme ils sont dans l'eau, si le renard s'approche, ils entendent le bruit, ils peuvent partir. Je dis, ça c'est la création d'Allah, elle est faite comme ça. Et à travers chaque créature d'Allah, que ce soit volatile, oiseaux, insectes, mammifères, il y a un hikmah, il y a une façon d'organiser, c'est ajib. L'homme se doit de décrypter ça et de reconnaître la perfection de la création d'Allah. Donc, c'est quelque chose qui va enlever la fatigue et qui permettra à l'homme de retrouver an-nashat, hein, la santé et le bien-être. Et juste après, wa ja'alna al-layla libasa, ça c'est le verset 10, et fait de la nuit un vêtement. Et avec ça on pourrait lire le verset suivant, wa ja'alna an-nahara ma'asha, et assigner le jour pour les affaires de la vie. Dans le verset 10 et 11, on fait mention de la nuit et du jour. Et dans d'autres versets encore, il y a l'alternance entre le jour et la nuit, et les deux sont nécessaires. Les deux sont importants pour l'être humain, pour la vie d'une façon générale. Vous vous rappelez, dans d'autres sourates, on avait cité un exemple, ce verset, « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا » jusqu'à la fin du verset. Si Allah Azza wa Jal avait décrété qu'il y aurait uniquement la nuit et que le soleil ne se lèverait pas, ne reviendrait pas, en ce sens, qui en dehors d'Allah pourrait ramener le soleil? Et vice versa, si Allah avait décrété qu'il y ait le soleil tout le temps et que le soleil ne se couche pas, qui amènerait de l'ombre, de l'obscurité pour vous? Et en commentaire, les savants disent, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie possible. Aucune vie animale, végétale ou rien du tout. Et s'il n'y a pas, et s'il n'y a que le soleil, il n'y a plus de vie possible. Parce que l'intensité du soleil et la chaleur sera telle que ni plantes, ni arbres fruitiers, ni l'eau, ça sécherait, et ainsi de suite. Donc cette alternance également, c'est un ni'ma, c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, si une personne voyage et va dans des zones éloignées du monde qui font, on pourrait dire, figure d'exception, des endroits qui sont très peu peuplés et que vous avez 2 heures de soleil par jour, on se rend compte que avoir du soleil, c'est un ni'ma, c'est un bienfait. Je me rappelle une époque où on habitait en Angleterre, en hiver, vous arrivez 2 mois, 3 mois, vous ne voyez pas le soleil. Et je vous assure que psychologiquement, c'est dur. Surtout quand vous êtes de La Réunion. 2 mois, 3 mois, il fait gris. Du matin jusqu'au soir, vous ne voyez pas un rayon de soleil. À un moment donné, coco, il bloque. Hein. Vous dites que non, on a un problème là. C'est pas possible. C'est pas acceptable. D'accord? Donc, cette alternance entre le soleil et la nuit, c'est là également un signe de notre Seigneur Azza wa Jal. Et voyez qu'on parle de l'alternance entre le soleil et la nuit, le jour où ce soleil qui normalement se lève à l'est se couche à l'ouest, lorsqu'Allah lui ordonnera de pas suivre cette courbe et d'inverser la courbe, aucun être humain, aucun scientifique ne pourra expliquer pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, ni retenir, ni changer le cours des choses. Tout ça, c'est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. On continue, on essaie de terminer ces versets de l'Ububiyya. « Wa banayna » un peu plus rapidement. « Wa banayna fawqakum sab'an shidada » et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. Dans d'autres versets également, on avait parlé suffisamment, pas nécessaire de revenir là-dessus, de la perfection d'Allah Rabbul Izza également dans la création des cieux. Et on avait dit que le ciel est une création d'Allah qui est réelle et qui est physique. Ce n'est pas juste une illusion. Ce n'est pas un bleu qu'on voit par rapport au reflet de la mer ou autre chose. Non, c'est quelque chose qui est haqq. Et le prophète alayhi salat wa salam, lors du voyage nocturne, était accompagné par l'ange Jibril alayhi salam sur le Buraq, et à chaque ciel, il cognait il demandait l'autorisation et l'ange qui est gardien du ciel accordait bien sûr l'autorisation à l'ange bien salam et le prophète alayhi salat wa salam pour traverser le ciel pour arriver à un autre ciel. Donc là aussi c'est un bienfait, ça fait partie des signes de notre Seigneur Azza wa Jal. Peut-être c'est un des seuls signes que l'homme ne pourra jamais voir, wallahu a'lam, parce qu'il n'est pas prévu. Il n'est pas prévu que l'homme un jour parvienne au ciel, c'est impossible. Parce que quand on parle du ciel, on parle des malaïkas. Quand on parle de ciel, c'est synonyme d'ange. Et ce sont deux mondes qui ne peuvent pas se rencontrer. Et vous voyez, qu'est-ce que l'homme a pu faire comme prouesse? Le mieux qu'il ait pu faire, c'est d'aller où ça? Sur la lune. Et la lune, c'est à deux pas, c'est Saint-Denis-Saint-Pierre la lune. Et encore, si c'est vrai... D'accord, sans rentrer dans des thèses, d'accord, si c'est vrai, parce que vous savez que ils sont très forts là-bas, dans certains pays, pour les effets spéciaux, Allahu a'lam. Donc voilà, et ils ont essayé d'aller sur Mars, c'était pas possible, ils parlent de Jupiter, de Neptune et tout, ils ont enlevé Pluton de la famille parce qu'il était trop loin. Donc théoriquement, l'homme ne peut pas arriver jusqu'au ciel, c'est les limites de la création des capacités de l'homme. Donc c'est un signe qu'on croit sans vraiment le voir réellement. Nous avons yaqin, conviction qu'il y a cette chose. On continue. « Waja'alna sirajan wahaja » Et y avons placé, c'est-à-dire dans les cieux, et nous y avons placé une lampe. Une lampe, c'est une image, donc c'est le soleil très ardente, wahaja. Donc le soleil, subhanallah, c'est là également un signe de la création d'Allah, un signe de la puissance d'Allah, et c'est un ni'ma qu'Allah, troisième point, ni'ma qu'Allah nous accorde, et nous devons être reconnaissants. Que le soleil qui se lève et l'intensité des rayons est juste suffisant et juste adapté pour que la vie se déroule normalement. Ce n'est pas un soleil qui détruit la vie et ce n'est pas un soleil qui est trop faible qui empêche la vie de se développer. Hada. Et vous voyez, petite parenthèse, le décalage, il suffit que la température augmente d'un ou de deux degrés ou de trois degrés pour que les scientifiques du monde entier tirent la sonnette d'alarme. Et on parle de, mashallah, Ya As-Sadiq, Alhamdulillah, les amis sont réunis. Mashallah. Lorsqu'il y a un ou deux degrés de plus, on parle de réchauffement climatique et tout le monde a peur. Il dit que voilà, si la température augmente encore d'un degré ou de deux degrés, tel pays, les Maldives, on parle des Pays-Bas, on parle de je ne sais pas quelle région du monde, ils seront submergés, il y aura telle conséquence, montée des eaux et ainsi de suite, pour un ou deux degrés. Mais un ou deux degrés par rapport... Le scientifique est là. Quelle est la température du soleil? 5008 quoi? C'est 5800 degrés. Mashallah. Donc un degré sur 5800 ou deux degrés de plus, ça fait monter le niveau de la mer, ça peut faire disparaître les Maldives, j'aurais vraiment dommage, et les Pays-Bas seraient en danger. Vous voyez, subhanallah, comment les choses sont paramétrées de façon millimétrique par notre Seigneur Azza wa Jal. C'est juste pour nous donner une idée de la puissance d'Allah et de la puissance de cette création et comment est-ce qu'Allah dose cette création qui est Ash-Shams, qui est le soleil. Waja'alna donc sirajan wahaja. Vous savez que semaine après semaine, ou alors on va dire mois après mois, les scientifiques n'arrêtent pas de découvrir des nouveaux soleils, donc des nouveaux systèmes solaires, des nouvelles planètes. Et là récemment, ils sont arrivés à une conclusion qu'il y aurait présence d'eau et donc de vie. Quand on parle de vie, ça peut être tout simplement vie microbienne. Dans telle planète, ils commencent à comprendre et les perspectives commencent à s'ouvrir un peu. Peut-être que nous ne sommes pas seuls de se dire, bien sûr que oui, Allah seul sait qu'est-ce qu'il a créé, quel est le sens de Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Seigneur des mondes, d'accord? Ça peut être le monde des anges, des djinns, des êtres humains, des animaux, mais c'est peut-être les mondes qu'Allah a créés et Allah seul le sait. Quand on voit la puissance d'Allah, on ne peut pas avoir une limite, on ne peut pas se limiter dans cette réflexion. Allah est capable de créer d'autres races, d'autres civilisations, d'autres mondes et Allah seul le sait. Hada. Donc, waja'alna sirajan wahaja. Également en commentaire, le Mufassir donne un exemple de qu'on parle de chaleur. Il dit que hadith de lequel le Prophète a dit que le feu du Jahannam s'était plaint à Allah Azza wa Jal. Ishtakat an-naru ila Allah faqalat. Il dit, oh Allah, ya Rabb, ça c'est un peu effrayant, excusez-moi de vous le dire avant de vous coucher. Akala ba'di ba'da. Oh Allah, je suis en train de me consumer. L'enfer, c'est tellement chaud. Combien d'années, pendant combien de temps l'enfer, le feu de l'enfer a été entretenu pour qu'il atteigne cette chaleur? Alpha amin, mille années. Et le feu est devenu. Alors j'ai un doute dans les couleurs, parce qu'il y a trois couleurs. L'enfer est de quelle couleur? Noir. Et il y a eu deux étapes avant, si je ne me trompe pas, et à vérifier le hadith, alpha amin hatta marrat, mille années jusqu'à ce que ce feu devienne rouge. Alpha amin hatta biyaddat, la deuxième couleur de l'enfer, c'est blanc. Mille années en plus, donc ça fait 2000 années que le feu est entretenu, la température augmentée sans cesse que ce feu est devenu blanc. Wa alfa amin hatta swaddat, et 1000 années de plus, ça fait 3000 ans, et l'enfer est devenu noir et obscur. Est-ce que c'est imaginable ça, un feu? Est-ce que c'est imaginable des flammes de couleur noire? Allah, ça fait peur. Ça dépasse tout ce qu'on... Moi, ça donne une barre à l'estomac. Un feu de couleur noire, un feu gigantesque, et ce feu qui est le jour de Qiyama, essaie de se libérer de ses chaînes, des malaïkas qui le tiennent pour envelopper les gens de le mahshar. Et ce feu qui dit Allah Azza wa Jal, Ya Rabb, akala ba'di ba'da, oh Allah, je suis en train de m'auto-consumer. Ça c'est un terme que c'est moi qui emploie. Hein. Je suis en train de me détruire, de me consumer moi-même. Allah Azza wa Jal a donné la possibilité à l'enfer de souffler deux fois, un peu. Ça c'est moi qui donne cet exemple. Vous voyez comme une marmite cocotte, d'accord, où quand la vapeur va sortir, la température va baisser un petit peu aussi. Et deux fois. Il dit nafasun fi shita wa nafasun fi saif. Un souffle, c'est, on va commencer par le deuxième parce que ça c'est logique, et le premier c'est, on ne le concevait pas, le premier souffle de l'enfer c'est fi saif, en été. Et le prophète dit que, ainsi donc, de la partie, wa ashaddu ma yakunu min al-harri, et dans les périodes de l'année où il fait le plus chaud, c'est les conséquences directes de ce souffle qui sort du Jahannam. De quelle façon, comment ça arrive chez nous, Allah seul le sait, nous y croyons fermement, parce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous l'a expliqué, hadith rapporté par Al-Bukhari, donc authentique à 100%. Donc on va dire jusqu'à là c'est concevable, que la chaleur c'est quelque chose qui émane du Jahannam. Mais il y a un moment où on se pose des questions, où un nafasun fi shita, et un des souffles de l'enfer c'est en hiver. Et le prophète me dit que fa ashaddu ma tajiduna min al-bardi min zamhariri jahannam. Ce qu'on ressent parfois comme température négative extrême, plus grand froid, ça provient également du jahannam. Alors là, franchement, on ne comprend plus. Et le Zamharir, selon certains ulama mufassirin, c'est un endroit de le Jahannam où il règne un froid insupportable. Donc l'enfer, en même temps, on parle de chaleur, mais en même temps d'un froid, mais c'est un froid qui brûle. Un froid qui vous brûle également, qui brûle les personnes qui y sont. Comment est-ce que cet enfer est constitué? Comment est-ce possible que dans un élément brûlant, il y ait la chaleur, il y ait un froid, mais ce n'est pas un froid agréable, bien sûr, vous l'avez compris. Allah seul le sait, c'est là la création d'Allah, certainement la création la plus terrible qu'Allah Rabbul Izzah ait créée. Et enfin, le dernier signe qui est cité dans la sourate An-Naba, avant de parler du Qiyama, parmi les signes d'Allah sur la terre et les bienfaits qu'Allah a accordé à la création, wa anzalna min al-mu'sirati ma'an fajjaja. Et fait descendre des nuées une eau abondante. Et on continue, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, pour faire pousser par elle grains et plantes et jardins luxuriants. Ça, c'est une preuve de la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal, où on a cité le soleil, et maintenant on cite la pluie, et du soleil et de la pluie, l'eau qui va tomber dans la terre, qui va entrer, qui va pénétrer les entrailles de la terre, et grâce au soleil également, ça permettra à la végétation de pousser, ça permettra à la vie de s'installer. Et tout commence de la terre, comme on l'avait dit la dernière fois, parce que ça partir du moment où il y aura les arbres fruitiers, il y aura, tout ce que les animaux ont besoin de manger, la vie animale va pouvoir prendre place. Et c'est également par le biais de l'eau qui tombe de la pluie ou que l'eau qui rentre dans les entrailles de la terre et qui va constituer une nappe phréatique, donc un puits, c'est de cette façon que l'homme pourra vivre. À une époque où les gens étaient des nomades, ils s'installaient dans des endroits où il y avait un puits. Quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Quand il n'y a plus d'eau, ils s'en vont. L'eau pour qu'ils boivent eux-mêmes, pour que le bétail puisse s'abreuver, pour qu'ils puissent vivre et ainsi avoir du lait, et ainsi avoir de la viande, et ainsi de suite. Donc, la vie, tout va démarrer de cette eau qu'Allah envoie et accompagnée du soleil. Ce seront ces deux éléments qui vont permettre de donner la vie. On ne va pas aller plus loin dans les explications. Et puis il y a donc le verset Nukhrija bi habba wa nabata, tout ce qu'Allah Rabbul Izzah fait sortir de la terre en termes de graines, en termes de machin. Et là aussi, nous voyons que vous mettez une petite graine, subhanallah, dans la terre, vous l'arrosez, et il peut y avoir des arbres différents. Quand vous voyez une graine, ça peut être, je ne sais pas moi, d'un pied de litchi ou de mangue ou de longanie ou d'autres choses. Subhanallah, quand on n'est pas spécialiste, on ne voit pas la différence, mais voyez que après le résultat, vous avez des arbres fruitiers totalement différents, avec des variétés qu'Allah seul le sait. Quand on regarde juste les mangues, par exemple, le nombre de variétés qu'il y a ici, entre le mangue José, le mangue Auguste, et ainsi de suite, avec des goûts différents, avec une saveur qui est parfois unique, qu'on ne retrouve pas ailleurs, on se dit que Allah, qui est capable de créer tout ça? Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'il y a encore des gens assez simples d'esprit, pour rester poli, pour penser que le monde, la nature existe, et par un hasard extraordinaire de Big Bang, de gaz qui se sont formés, et en finalité tu retrouves sur ta table un mangue José, un mangue, comment appelle ça Mandy, un mangue Leonardo, un mangue, c'est quoi les noms des mangues, Golden, je sais pas quoi, un mangue américain, tout ça, toute cette variété, ça c'est le fruit du hasard, le fruit du hasard, c'est dame nature, là, wallah, quel homme doué d'un peu, d'un neurone ne serait-ce, kafi wahid, une seule neurone est suffisante pour réaliser que al-khalq ne peut pas exister par un hasard, c'est, il y a un créateur. On rejoindra notre cher Voltaire qui disait, qu'est-ce qu'il disait encore? Oh zut, j'ai oublié, un truc en rapport avec l'horloger, c'est en examinant le travail de le travail d'orfèvre de l'horloger, comment ça fonctionne le mécanisme, qu'on réalise que derrière tout ce mécanisme-là, il y a un horloger. Ça fait très longtemps, c'est vieux tout ça, mais en réalisant le travail qui est fait, le mouvement des aiguilles, les roulements et tout, on déduit que derrière ce mécanisme magnifique, au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a un horloger. De la même façon, il disait que l'homme, en voyant tout ce qui a fait cette terre, au moins qu'il soit riche, pauvre, blanc, noir, bête, intelligent, au moins il sait qu'il y a un créateur. Ça, c'est ce qui vient à l'al-fitra. Il n'a pas dit fitra, mais c'est quelque chose d'inné. On comprend qu'il y a un créateur. Wajannatin al-fafa. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, parce qu'après on va passer à un autre chapitre. Enfin, pas un autre chapitre, mais un tournant dans Amma et Tasa'aloun. Inna yawm al-fasli kana miqat. Et très souvent, vous voyez que les sourates de Amma et Tasa'aloun, du 30e sipa, 30e juz, sont organisées de cette façon. La puissance d'Allah dans la création, et ensuite l'annonce de la fin des temps. C'est-à-dire que l'homme réalise, effectivement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais n'oubliez pas qu'un jour tout ça va disparaître. Et quand tout ça disparaît, c'est la fin du monde, et vous aussi vous disparaissez, et vous retournez auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce qu'on avait un petit peu expliqué la dernière fois, ce qu'on va voir, autant on a vu les signes d'Allah concernant la terre, concernant les montagnes, concernant les cieux, mais nous allons voir ces mêmes signes, on les retrouve le jour de Qiyama, mais complètement détruits. Description des montagnes dans les premiers versets, les montagnes stabilisent la terre, c'est quelque chose de solide. Description du ciel, Sab'an, Shidada, solide, quelque chose de ferme. On va voir le jour de Qiyama, le ciel est ouvert, déchiqueté. Dans certains hadiths, il expliquait que c'est comme du coton qu'on a éparpillé, le ciel est explosé, le ciel est fendu pour que les anges puissent descendre et s'installer dans la terre du Mahshar. Donc tous les signes qu'on a pu contempler et la perfection de ces signes, nous les retrouvons, ces signes, le jour de Qiyama, mais complètement anéantis, ces montagnes qui seront réduites en poussière. Ça, c'est la qudrat d'Allah Azza wa Jal. Donc on verra ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Qu'Allah Azza wa Jal nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah nous donne les yeux du cœur, les yeux qui voient avec iman, les oreilles qui entendent avec iman et un cœur qui réfléchit avec la foi, et que nous voyons dans la création d'Allah des signes jour après jour qui augmente notre iman, qui nous donne encore plus de conviction sur la puissance de notre Seigneur, deux, et qui nous donne de l'humilité, tawadu, de notre cœur, qu'on réalise que nous ne sommes rien nous ne représentons rien auprès de notre Seigneur et que nous ne pouvons pas nous permettre de le désobéir délibérément ni de manquer aux obligations qu'il nous a fixées, nous a demandées. Et quatrième réaction, d'être reconnaissant pour les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.